الله رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه لا يوم الدين بعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب شيخون essayer de lire un hadith ce soir dans un kitab très connu qui s'appelle Al-Arba'in An-Nawawiyya. C'est un regroupement des 40 hadiths qui a été fait par Imam An-Nawawi rahimahullah. Et Al-Hafidh An-Nawawi faisait partie des élèves de Imam Al-Shafi'i rahimahullah. Et c'était certainement un des alims les plus sincères et les plus érudits que la Ummah n'ait jamais connu. Et une des grandes preuves que Imam An-Nawawi rahimahullah était un homme extrêmement sincère, en plus d'être érudit, d'être un faqih, d'être quelqu'un rempli de science, c'est le résultat de son travail. On peut juger une personne, on peut juger la sincérité d'une personne, la sincérité Allah seul le sait, si quelqu'un est sincère ou non, mais en général lorsqu'une personne est sincère dans ce qu'elle accomplit, nous voyons les résultats de le travail. Et quand nous voyons des ulama comme Imam An-Nawawi rahimahullah qui à son époque écrit les commentaires et regroupe les 40 hadiths Nawawi, mais également une compilation de hadiths beaucoup plus connue qui se trouve dans toutes les mosquées, dans tous les pays du monde, quelles que soient les régions, quelles que soient les tendances, quelles que soient les madhabs, c'est ce fameux livre Riyad al-Salihin, les jardins des vertueux, qui également a été écrit, a été compilé par Imam An-Nawawi rahimahullah. Donc les ulama disent que lorsque nous voyons que son travail est arrivé jusqu'à notre époque et dans tous les coins du monde, ça nous fait comprendre que cette personne, en plus d'être remplie de science comme beaucoup d'autres savants de son époque, c'était une personne qui avant tout était remplie de sincérité. Et ce n'est pas pour rien s'il commence ce recueil de hadith par le même hadith que Imam Bukhari rahimahullah avait mis au début de son livre Fathul Bari, de son livre Al-Jami' al-Sahih, le hadith concernant la sincérité. Donc c'est un hadith que nous avons déjà eu l'occasion d'expliquer dans deux contextes différents. Donc nous n'allons pas développer ce hadith, mais juste pour respecter l'ordre du kitab de Imam An-Nawawi dans ses 40 hadiths qu'il a donc compilés, nous allons donc aborder un point qui nous intéresse dans notre vie de musulmans de tous les jours concernant ce hadith très brièvement. Hadith de Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. Ce hadith, mes chers frères, se trouve dans le Sahih Al-Jami' d'Imam Bukhari et également dans le Sahih d'Imam Muslim. Et ce hadith a été rapporté par un des plus grands sahaba en la personne de Hazrat Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. Le sens du hadith est connu de tout le monde, que ce soit des enfants, des adultes. Nous avons tous entendu parler de ce hadith de base. Les ulama disent que l'islam est basé sur certains hadiths de base. Et parmi ces hadiths, ces piliers parmi les hadiths, il y a le hadith du ikhlas dans lequel le prophète alayhi salatu wassalam nous rappelle que les actions n'ont de valeur que par les intentions, que par l'intention avec laquelle elles ont été accomplies. Ça veut dire qu'à partir du moment où je vais accomplir une bonne action, il ne faut pas croire que l'action sera automatiquement, premièrement, acceptée par Allah, et deuxièmement, l'action sera automatiquement créditée. Je vais être immédiatement récompensé parce que j'ai fait la salat, parce que j'ai fait le dhikrullah, ou parce que j'ai lu le Coran. L'action, certes, en apparence, est ce qu'on appelle une a'mal salih, une action vertueuse. Mais ce n'est là que l'apparence. Maintenant, pour que l'action soit montée aux cieux, acceptée par Allah et donc créditée dans notre livre de compte, il faut qu'il y ait trois conditions. Et sans une de ces trois conditions, aucune action ne sera acceptée. Vous serez tous d'accord si on dit qu'une personne qui n'a pas la foi et qui dépense des milliers, voire des millions d'euros pour aider les personnes démunies, certes, c'est une bonne action. C'est une action vertueuse, respectueuse, que nous admirons. Mais nous sommes tous d'accord sur le fait qu'une telle action ne sera pas profitable en termes de thawab et de hasanat. Une personne qui n'a pas le iman,
même si elle a construit, je ne sais pas moi, un immeuble ou un, je ne sais pas, un quartier tout entier pour que les pauvres, les gens qui sont démunis peuvent y loger, certes, c'est une bonne action. On aimerait faire une telle action. Mais comme cette personne n'a pas le iman, l'action n'est pas acceptée par Allah comme étant une a'mal saliha. Et donc, le jour des comptes, la personne ne voit pas cette bonne action dans son livret, ni cette personne ne le retrouvera dans la balance, et cette action ne lui sera donc d'aucune utilité dans le akhira, dans l'au-delà. C'est uniquement de ce monde qu'Allah Ta'ala pourra élever, pourra donner un certain honneur à cette personne par sa bonté envers les gens. C'est de la sorte qu'Allah Ta'ala récompense les bonnes actions de la personne qui n'a pas la foi. Donc pareil, si nous acceptons le fait que sans foi, sans iman, l'action n'a pas de valeur, nous devons également accepter que si nous ne sommes pas sincères, si lorsque j'accomplis une action, mon but n'est pas que de rechercher le contentement d'Allah, alors assurément cette action n'aura strictement aucune valeur. Ça c'est la deuxième condition. Et la troisième condition, ce qu'on appelle al-mutaba'a, nous devons être persuadés que si j'accomplis une bonne action, même si elle me coûte très cher, hein, financièrement, ou par le temps, ou par les efforts physiques, si cette action ne trouve pas de source dans la parole d'Allah, ou dans la parole du prophète Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wa sallam, où cette action n'a pas été pratiquée par les sahaba, alors assurément cette action, même si l'apparence est vertueuse, l'action ne nous apportera strictement rien. Et quand une action ne nous apporte rien, bien au contraire, elle peut se retourner contre nous. De quelle manière? Que l'action, si nous sommes conscients que c'est une action qui est inexistante à la base, à la source, il n'y a pas de relation avec le Coran ni les hadiths, alors nous devons être conscients que nous avons innové. Et pour une innovation, nous savons quelles sont les conséquences. C'est considéré comme un des plus grands kabirans. C'est une action, c'est un péché qui détruit la religion. Donc ce sont là les trois conditions pour qu'Allah Azza wa Jal accepte l'action du musulman. Et ce n'est pas pour rien si notre prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit à ses compagnons que la chose que je crains le plus pour vous, c'est ash-shirk al-asghar, le petit shirk. Et là, le prophète m'a expliqué, c'est quoi le petit shirk, le petit polythéisme, c'est quoi? C'est ar-riya, l'ostentation. Lorsque nous accomplissons une action, soit nous le faisons pour les gens, pour faire voir aux gens, ou alors le riya, l'ostentation commence à partir du moment où dans le niyat, il y a deux personnes. Il y a Allah Azza wa Jal et il y a une petite partie pour les gens. Même si c'est 99% pour Allah et 1% pour les gens, Allah Azza wa Jal a dit taraktuhu wa shirkahu. Allah Ta'ala dit que je rejette cette action ainsi que l'associé. Car Allah n'accepte les actions qu'à partir du moment où on est sincère, nous recherchons uniquement son contentement. Et nous avons parfois l'impression que ce sont là, des paroles très basiques. On a déjà maintes et maintes fois entendu, mais si on analyse les commentaires des tabi'in, ceux qui sont venus après les sahaba, ils disent qu'ils n'ont jamais rencontré autant de difficultés dans une action, si ce n'est que dans le niyya, dans l'intention. Contrôler l'intention, le niyya de l'action du début jusqu'à la fin, ce n'est pas quelque chose de facile et ce n'est pas quelque chose d'acquis. Cela nécessite un effort, un mujahada, une surveillance de tous les instants afin que Shaitan ne s'approprie pas cette action ou alors ne le détourne pour que notre intention se dédouble, devienne Allah et en même temps l'honneur ou la reconnaissance des gens. Et lorsque le prophète dit « Wa innama li kulli imri'in ma nawa », le prophète nous explique que chacun aura ce qu'il voulait. Et là, il va donner l'exemple, celui qui quitte son pays pour faire la hijra, en parlant des sahabas qui ont quitté Makkah pour aller à Madina, si le but était de rechercher le contentement d'Allah, assurément la personne aura le contentement d'Allah. Et ça, c'est une règle extraordinaire, ça. Ça nous prouve que, enfin, je ne veux pas dire que l'effort ne compte pas, mais tout démarre de l'intention. J'ai l'intention de faire quelque chose de bien. Maintenant, si je n'ai pas réussi à le faire complètement, par exemple, j'ai l'intention d'aider une personne qui est dans la difficulté. Arrivé au moment de l'aider, j'ai eu un problème avec ma banque, j'ai plus d'argent, ou la personne a voyagé ou autre chose, je n'ai pas accompli l'action que je voulais. Mais à la base, j'avais l'intention de le faire. Si le niyat est sincère à la base, vous l'avez eu votre action. C'est dans la poche, Inch'Allah. Contrairement au dunya, si j'ai une facture d'électricité ou de l'eau ou je ne sais quoi à payer, d'accord? L'échéance c'est demain midi. Je prends ma facture, je prends mon chéquier. Arrivé à l'agence, c'est fermé. Le bus était en retard, en bout de temps, l'agence est fermée. Est-ce que je vais téléphoner, je vais dire au patron de France Télécom ou EDF, j'avais l'intention de vous régler, ne me coupez pas le téléphone ou l'électricité. Pour lui, l'intention, ça n'a aucune importance. Il veut voir l'argent, la couleur de l'argent. Vous avez payé, vous avez votre ligne ou votre courant. Vous n'avez pas payé, on vous coupe. Ça, c'est la logique du dunya. Mais pour Allah, c'est différent. Dans votre cœur, vous avez l'intention d'obéir à Allah, d'obtenir son contentement. Vous allez dans ce sens. Que vous réussissiez ou non, Allah Ta'ala vous a déjà accepté. Allah Ta'ala vous a déjà récompensé. Ça, c'est ce qui est extraordinaire de l'islam. Et pour ça, maintenant, il donne l'exemple opposé. Maintenant, une personne qui fait le hijrat, qui voyage dans le but du travail, hein, pour un commerce, ou alors il y a une femme là-bas qui est belle, il veut l'épouser, cette personne aura ce qu'elle voudra. C'est-à-dire, il n'y aura pas de tawam, elle fait peut-être la même action, elle peut être dans une même caravane, le même contingent, le même avion, pour aller dans un pays, il y en a un qui va pour apprendre la science religieuse, ou pour pratiquer son dîn, et l'autre il y va pour le travail, pour se marier avec une femme, chacun sera récompensé, chacun aura ce qu'il voudra. Maintenant, pour le dunya, il est possible que celui-là, il va pour le commerce, et arrivé là-bas, le commerce ne marche pas. Il est possible qu'il y va pour épouser une femme, arrivé là-bas, le madame n'est plus libre et plus de libre. C'est possible. Dans le dunya, on peut avoir ce qu'on voulait, ou on peut ne pas avoir. Mais dans le dîn, dans le contentement d'Allah, assurément, nous en ressortons gagnants. Et donc la leçon, pour ne pas faire long, la leçon, parce que ce hadith est connu, nous connaissons tous les commentaires, ce hadith on a déjà expliqué. Maintenant, une petite leçon qu'on pourrait retenir et éventuellement mettre en pratique dans ce hadith, c'est ce que l'imam An-Nawawi a souligné, rahimahullah, qu'il est important que le musulman arrive à distinguer ses actions. C'est-à-dire, il y a deux étapes dans le niya. Il y a l'étape, je le fais pour Allah ou bien pour les gens, pour autre chose. Je pense que nous avons, Inch'Allah, atteint un certain degré, bismillah, qui nous permet de faire nos actions en recherchant uniquement le contentement d'Allah. On peut considérer que c'est une étape plus ou moins correcte pour nous. On ne dit pas à qui, mais on est dans le bon chemin. Maintenant, la deuxième étape qui permet d'élever le niveau des actions, c'est quoi? C'est lorsque j'accomplis l'action, je reconnais et je comprends l'action que je vais accomplir. Parce que malheureusement, le gros problème de nos jours, c'est quoi? C'est que les musulmans, ils ont une pratique plus ou moins correcte de la religion. Nous faisons les actions qu'Allah nous demande. La salat, la zakat, le hajj, le ramadan, nous le faisons tous. Mais très souvent, nous le faisons sans réellement comprendre le sens des actions. Ces actions, parfois, deviennent une routine. Nous enchaînons les ramadans, nous enchaînons les salats, mais dans un certain sens, nous ne comprenons pas, nous n'avons pas conscience de l'importance de la chose, du sens de la chose et pourquoi je l'accomplis et au-delà de ça, qu'est-ce qu'Allah Ta'ala m'accorde. C'est sur ces points-là que ce hadith doit nous permettre de nous remettre en cause. Hein, on doit être capable de prendre conscience que les actions que j'accomplis, je dois être capable de mener une petite réflexion, même pour les actions de base. Quand je sors de la masjid, je sors du pied gauche, je sais que c'est une sunnah, mais c'est devenu presque une habitude. Lorsque je vais me chausser, je vais mettre le pied droit, ensuite le pied gauche. Ça, on a appris depuis qu'on est petit à la madrasa. Mais si, avant d'accomplir, on est récompensé pour cela, Inch'Allah. Mais si avant de faire l'action, je me dis que là, je sors du pied gauche parce que mon prophète me l'a enseigné. Et en faisant cela, j'imite sa sunnah et donc je me rapproche de lui, je me rapproche d'Allah. Ainsi de suite, quand je me chausse, etc., etc., dans toutes les actions qu'on accomplit, dans la salat que je vais accomplir. Je me dis que j'obéis à l'ordre d'Allah. Ces cinq salats qui me feront accéder, Inch'Allah, au paradis. Dans cette salat, je me retrouve en conversation avec Allah. Allah m'observe. Je prends des positions qui sont des positions de ta'abboud, d'adoration, de culte, de soumission vers Allah. Mon sijda, assurément, ne sera pas le même sijda que la personne qui a mangé, qui est venue, qui a accompli le namaz, comme il le fait depuis 20 ans ou comme il le fait depuis 25 ans. Et ça, c'est extrêmement important. Même si dans la forme, nous avons tous fait 4 à 4, personne n'a fait 5 ou n'a fait 3. Mais quand je suis conscient de ce que je fais, je sais c'est quoi faire le salat, je sais c'est quoi jeûner, je sais c'est quoi mettre en pratique une sunnah, je comprends l'importance et j'essaie de ressentir l'amour d'Allah dans mon cœur et le rapprochement auprès d'Allah par le biais de cette action. Alors mes chers frères, croyez-moi, assurément c'est une action qui va augmenter notre iman, qui nous apportera quelque chose que les actions qui sont faites de manière usuel ou par routine, ne nous apporteront jamais. Donc ça, c'est une petite leçon que nous pouvons essayer de tirer à travers ce hadith. Essayons de distinguer les actions que nous accomplissons. Remplissons nos cœurs de sincérité, premièrement. remplissons-nous que des dévotions. Quand est-ce que notre cœur sera rempli de dévotion? C'est quand je vais être conscient de l'importance de l'action que j'accomplis, du pourquoi et pour qui je le fais, et qu'est-ce qu'Allah me donne. Et de la sorte, Inch'Allah, je vais prendre conscience de chacune de ces actions, et là, mon cœur sera attaché à cette action. Regardez, on a un exemple que deux personnes qui sont en train de manger. Une personne qui mange comme ça pour se faire plaisir, et l'autre personne, lorsqu'elle est en train de déjeuner ou de dîner, elle se dit que je mange parce qu'Allah me l'a ordonné. Kulu ashrabu. Il y a l'ordre de manger et de boire de le Coran. Mais lorsque notre prophète nous enseigne pourquoi le musulman il mange et il boit, ben c'est que l'objectif c'est quoi? C'est avec la force que cette nourriture va me procurer, je peux faire le ibadat d'Allah, premièrement. Je peux travailler. Et en travaillant, je gagne mon rosi, j'ai mon gagne-pain, mes revenus qui sont licites, qui sont halal. Ça me permet de nourrir ma famille, etc., etc. Cette personne qui mange et qui boit dans le but d'avoir de la force pour vivre, pour faire les actions, les droits d'Allah, également les droits de sa famille, Inch'Allah, cette action qui est bête, qui est faite de manger ou de boire, sera considérée comme un ibadat. De même, une personne qui dort, la personne va se coucher, elle se dit que je me couche tôt dans le but de récupérer des forces pour me lever, faire tahajjud, ou au moins, à notre niveau, pour avoir les forces, pour me réveiller à temps, pour faire le fajr avec Jama. Inch'Allah, ce sommeil-là, chaque minute de ce sommeil, Inch'Allah, pourra être considéré comme étant une ibadah. Donc c'est ça le plus important de nos jours. Nous cherchons des actions à accomplir. Nous cherchons à faire plus, mais il ne faut pas rechercher que la quantité. Il faut rechercher la qualité des actions. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Les ulama disent que ahsan, ça veut dire akhlas. Allah Ta'ala veut voir qui c'est qui accomplit les actions les plus sincères. Plus l'action est sincère, plus l'action déborde d'amour pour Allah, plus l'action aura de la valeur et plus l'action nous procurera un quota de iman et l'action nous rapprochera d'Allah. C'est ça le but de la vie du musulman. Tout ce que je fais, je suis sincère, je le fais pour Allah. Et même quand je subis des difficultés, ça c'est, on entre dans un autre domaine, mais c'est pas, on ne va pas trop rentrer dedans, même dans les difficultés de la vie, quand je suis éprouvé par tel ou tel malheur, ou telle ou telle calamité, la santé, le travail, la famille ou autre chose, je me dis que ce sont là des épreuves qu'Allah m'envoie. Je suis patient et Allah Ta'ala me récompensera. C'est ce qu'on appelle al-ihtisab. Ben, celui qui réfléchit de la sorte, cette personne est récompensée. Alors que l'autre personne à côté peut être éprouvée par la même maladie sur le même lit d'hôpital, mais cette personne pense que c'est une calamité, c'est un malheur ou autre chose. Ce musulman qui prend conscience de chaque moment de sa vie, que je le fais pour Allah. Si j'ai une difficulté, je fais preuve de patience pour Allah. C'est un musulman qui est sur le droit chemin et chaque moment de sa vie, c'est un moment qui le rapprochera d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah ta'ala nous donne les qualités de la foi, du iman, un iman solide. Il nous faut des bases solides. Si nous n'avons pas de bases solides, nous pourrons développer autant de bonnes actions, mais ce ne seront là que des actions sans fond. Donc le plus important, c'est comme lorsque le prophète a préparé le iman des sahaba à Makkatul Mukarrama pendant 13 années, comprendre c'est quoi adorer Allah, comme Ibn Abbas qui est encore un enfant auprès du prophète. Le prophète explique que mon fils, quand tu as besoin de quelqu'un, adresse-toi à Allah, sache que si Allah est avec toi, personne ne peut te faire du mal, etc. etc. Le prophète enseigne à un enfant les hadiths de base de la foi. Comment mon cœur doit être relié à Allah en permanence? Comment dans mon cœur il ne doit y avoir que l'amour d'Allah? Il ne doit y avoir que la crainte d'Allah? Et enlever l'attachement pour le dunya, enlever la crainte des mahlouqats de mon cœur, ça c'est la base que les sahaba ont eue, qui a permis aux sahaba d'atteindre les plus hauts degrés du iman, qu'Allah Ta'ala nous permette de faire ce cheminement qui nous amène vers une foi sincère et solide. Ma tawfiq illa billah, subhan rabbika, rabbil izzati amma yasifoun, wa salamun ala al-mursaleen, walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullah.